Bienvenue dans l'épisode 28, le troisième épisode en français du podcast Article 7, nous vous parlons des droits humains en Suisse. Nous nous intéressons aujourd'hui à un droit humain qui paraît tellement évident qu'il n'est pas souvent évoqué. Ce droit, c'est le droit à l'alimentation. On pourrait penser qu'il est garanti ici en Suisse, mais ce n'est pas le cas. Je m'appelle Jeanne Durafour et je vous accompagne dans cet épisode du podcast Article 7 à Genève. Bonjour Léa Winter.
Bonjour Jeanne Durafour.
Léa Winter, tu es coprésidente de FIAN Suisse, la branche suisse de la première organisation internationale à défendre le droit à l'alimentation. Tu es aussi membre de la coordination de la CALIM, la Caisse genevoise de l'alimentation, qui est une première en Suisse. Et tu es membre de la plateforme des ONG Suisse pour les droits humains, qui rassemble toutes les ONG actives dans le domaine des droits humains en Suisse. Nous sommes aujourd'hui dans ton bureau, à la Maison des associations au cœur de Genève. Léa, tout d'abord, c'est quoi le droit à l'alimentation ?
Ben, l'alimentation, on le sait, hein, c'est au cœur de toutes nos relations sociales depuis le début de l'humanité. C'est un droit fondamental, c'est quelque chose d'essentiel qui nous constitue. On dit souvent qu'on est ce qu'on mange. Donc c'est le droit auquel je me consacre depuis plus presque 20 ans. Le droit à l'alimentation, ben, il découle tout simplement de la Déclaration universelle des droits humains. Il est compris dans l'article 25 au droit à un niveau de vie suffisant, avec le logement, l'habillement. Enfin voilà, c'est vraiment le basique pour assurer la dignité humaine. En termes de définition, il y en a eu plusieurs. C'est souvent les rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur le droit à l'alimentation qui ont essayé de le définir de manière exhaustive. C'est pas une chose facile, mais j'aime bien la définition d'Olivier de Schutter qui nous dit « Le droit à l'alimentation, c'est le droit de toute personne, seule ou en communauté avec d'autres, d'avoir physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante, adéquate et culturellement acceptable. Et il faut que cette nourriture soit produite et consommée de façon durable afin de préserver l'accès des générations futures à l'alimentation. » Donc vous voyez là tous les éléments qu'inclut ce droit. On parle d'un droit collectif, ouais, c'est vraiment... En plus, souvent, ben, les femmes qui s'occupent de l'alimentation dans les familles, donc c'est elles qui assurent ce droit en fait collectif. Il y a l'accès physique aux ressources nécessaires pour produire l'alimentation. Il y a l'accès économique, donc tout ce qui est filet de sécurité sociale pour pas se retrouver dans une situation où c'est plus possible de se nourrir correctement. Il y a la question, bien sûr, de quantité, de qualité acceptable, qui, c'est vrai, qu'autant où il y avait quand même pas mal de problèmes sanitaires, en fait, c'est en train de revenir aussi. On a eu plein de scandales sanitaires. Et puis surtout, maintenant, ce qu'on découvre, c'est que l'alimentation est de plus en plus fabriquée de manière industrielle et est souvent nocive, en fait, pour la santé humaine, sans parler de la santé de la planète. Donc il y a ces éléments-là, et il y a justement tout l'aspect sur la production, quel mode de production, comment on préserve les ressources naturelles pour les générations futures. Et ce terme de droit à l'alimentation adéquate, effectivement adéquate, ça, c'est censé comprendre un peu tous ces aspects-là. C'est un peu dur de l'expliquer, mais ensuite, ce droit, il a été repris aussi dans le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels que la Suisse a ratifié. Et le comité des droits économiques, sociaux et culturels a rédigé l'observation 12 sur le droit à l'alimentation, où vraiment tous ces aspects sont spécifiés.
En 1995, trois frères apatrides d'origine tchèque immigrent en Suisse. Ils n'ont pas d'argent, or ils ne peuvent ni travailler, faute de pouvoir obtenir un permis, ni quitter le pays, faute de papier. Ils demandent alors une aide aux autorités du canton de Berne, mais celles-ci leur refusent. Ils saisissent alors le tribunal fédéral qui rend une première décision importante pour le droit à l'alimentation. Les juges considèrent que les trois frères avaient droit à des conditions minimales d'existence afin d'éviter d'être réduits à la mendicité. Ce droit n'est pas conditionné par le statut légal de la personne qui l'invoque. Léa, est-ce que toute personne qui se trouve en Suisse peut recevoir un minimum vital qui garantit son droit à l'alimentation ?
Oui, effectivement. Donc la Suisse a cet article 12 dans la Constitution sur le droit à des conditions minimales d'existence. Il est toujours invoqué aujourd'hui. C'est vrai que les critiques, c'est que ces personnes-là qui... Donc c'est toujours la même chose. C'est vraiment le minimum qu'on peut obtenir quand on n'a pas de statut légal en Suisse, c'est-à-dire qu'on a été débouté de l'asile ou même qu'on n'est pas entré en matière sur son cas. Et en fait, c'est des personnes qui ne peuvent pas travailler. Donc, elles sont interdites de travail. Donc, c'est quand même... Et puis souvent, effectivement, c'est la même situation. Et de plus en plus, c'est qu'on ne peut pas les renvoyer dans leur pays parce que, vu l'état du monde, on ne peut pas humainement le faire. Donc, ces personnes se retrouvent complètement bloquées dans une situation, un paradoxe absurde. Donc... C'est le minimum qu'on leur assure, mais il faut se rendre compte de ce que c'est. À Genève, c'est 11 francs par jour. Donc je ne vois pas vraiment comment on pourrait s'assurer une alimentation adéquate. Rien que de pouvoir inviter des gens chez soi, manger avec d'autres, ça entrave très très fortement ce droit.
Juin 2023. Les Genevoises et Genevois inscrivent le droit à l'alimentation dans leur constitution cantonale. Selon ce nouvel article 38A, le droit à l'alimentation est garanti. Toute personne a droit à une alimentation adéquate, ainsi que d'être à l'abri de la faim. La pandémie de Covid-19 avait révélé l'ampleur du phénomène en 2020, avec les longues files de personnes de tous âges patientant pendant des heures pour recevoir des paniers de nourriture. La distribution d'aide alimentaire n'a cessé d'augmenter à Genève depuis. Aujourd'hui, plus de 15 000 personnes bénéficient du colis alimentaire chaque semaine et le système de distribution alimentaire actuel arrive à ses limites. Afin de répondre à cette problématique, un projet de loi pour une alimentation solidaire et durable est en cours d'élaboration afin de mieux lutter contre la précarité alimentaire et de promouvoir une alimentation saine en incluant à la fois les communes et les milieux agricoles. Léa, c'est la première fois qu'un canton suisse légifère sur le droit à l'alimentation. Qu'est-ce que ce nouvel article de la Constitution pourra apporter ?
Oui, alors ça c'est notre gros combat des années passées. Et on est assez fiers d'être le premier canton à avoir légiféré sur le droit à l'alimentation. En fait, c'est un peu la même articulation, c'est-à-dire qu'on avait déjà dans la Constitution genevoise un article sur le droit à un niveau de vie suffisant. Mais on a décidé, dans tout ce contexte du Covid, de le sortir, de vraiment en faire un objet politique, de réouvrir le débat sur ce droit, vu que c'était tellement présent dans l'actualité et que les gens se rendaient effectivement compte des violations qui subsistaient dans ce domaine-là. Donc on a vraiment été à l'initiative de proposer quelque chose de plus structurel que juste augmenter encore les budgets de l'aide alimentaire. C'est ce qui a été fait, bien sûr, tout de suite au déclenchement de la crise, et c'était nécessaire. Mais c'est vrai qu'avec avec nos alliés, on a vraiment essayé de réfléchir à une solution plus structurelle qui s'appuyait sur les droits humains, c'est-à-dire où toutes les personnes consultées, concernées, devaient participer à la construction des solutions, que ce devait être des solutions qui soient non discriminatoires, que le processus se déroule en toute transparence et que vraiment on travaille à l'autonomisation des personnes concernées pour réduire cette dépendance et ce système basé sur la charité. Donc on a vraiment, on a pu travailler avec des alliés pour faire une initiative constitutionnelle pour inscrire ce droit. Ça, c'était déjà en 2020, après le temps que ce soit traité par le Parlement. Ça a été accepté au Parlement en 2021. Ou non, plutôt 22, je dirais. Et en fait, comme c'est un changement constitutionnel, il y a eu un vote populaire en juin 2023. Donc là, on a fait une coalition de plein d'assauts de la société civile et aussi des partis politiques pour défendre ce droit à l'alimentation. Et ça a été un grand succès, avec une validation par plus de 67% des votants. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? En fait, on était déjà en discussion avec les autorités de parler d'une politique publique de l'alimentation qui soit transversale, donc qui va vraiment de la fourche à la fourchette, comme on dit, qui inclut la production alimentaire, des aspects de santé, de l'environnement. Enfin voilà, il y a vraiment de l'éducation. Enfin, il y a plein de secteurs qui doivent être, qui sont concernés par ce droit. Donc ça, c'était notre revendication principale et elle a été écoutée parce que après le vote, très vite, le département de la cohésion sociale au niveau cantonal a convoqué un peu tous les acteurs du secteur pour former un comité de pilotage qui a travaillé pendant 4 mois pour élaborer des recommandations pour la rédaction ensuite d'une loi d'application. Parce que ça, on a l'article constitutionnel et il faut maintenant une loi d'application de ce droit. Donc c'est à ça qu'on travaille maintenant. Le processus est assez laborieux, il a pris beaucoup de temps. Donc là, on a eu enfin une première version de ce projet de loi, de cet avant-projet de loi en octobre 2025, qui a été soumis à la consultation. Donc ça, c'était vraiment très positif. C'est ce que le troisième projet de loi qui est soumis à cette consultation publique. Et il y a eu plus de 300 contributions. Donc on voit quand même que la démocratie alimentaire est en marche à Genève, que les gens se préoccupent de ce sujet et ont des choses à dire. Donc ça, c'est déjà un premier signal assez positif. Et maintenant, sur ce texte, ben voilà, on a tous fait pas mal de commentaires. C'est un peu allé dans la direction qu'on craignait, c'est-à-dire plus une refonte du système d'aide alimentaire. C'est vrai que ça, c'est un peu la chose que les personnes ont le plus retenu, c'est que ces files d'attente, recevoir une nourriture qu'on ne choisit pas, c'est contraire à la dignité humaine, et c'est tout à fait vrai. Mais du coup, c'est très ciblé là-dessus, et du coup, on va vers une monétarisation de l'aide alimentaire. Qui est une bonne chose, parce que effectivement ça va dans le sens de l'autonomisation, et puis que c'est pas... personne ne peut choisir ce que les autres personnes mangent, c'est pas du tout ce que dit ce droit-là. Donc ça c'est bien, mais c'est vrai que du coup après il y a toute la question de quelle alimentation on peut obtenir avec de l'aide alimentaire, quoi. Et c'est vrai que nous, on milite quand même vers un fléchage, vers des produits... sur un certain type de produits, quoi, des produits bruts, nutritifs, et qui soutiennent aussi les paysans paysannes qui cultivent la terre autour de nous pour maintenir cette cohésion sociale aussi entre nous et un territoire vivant qui répond au maximum à ses besoins. Donc il y a cette question du fléchage vers les produits qui n'est pas du tout résolue. Il y a une question de créer une fondation qui serait en charge de coordonner cette aide alimentaire. C'est sûr qu'il y a un manque de coordination. Après, que ce soit une fondation, ça, on n'est pas non plus convaincu. Il y a quelques éléments assez intéressants, comme l'interdiction de détruire des denrées alimentaires. Donc ça attaque le gaspillage alimentaire qui est énorme en Suisse et ailleurs. Mais voilà, il y a aussi toutes ces questions de régulation des acteurs privés, de la publicité, du marketing, qui n'est pas abordée de manière très forte. C'est plus des encouragements, mais on aurait voulu des choses un peu plus contraignantes sur certains aspects, quoi. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ben, on attend du coup une deuxième version de ce projet de loi. Il y a les communes aussi qui sont consultées en ce moment, et puis on espère vraiment qu'on aura une deuxième version assez vite qui puisse être validée par le Conseil d'État et soumise au Parlement. Mais si on est un peu réaliste, on se rend compte qu'il n'y aura pas de loi avant 2028, quoi. Donc c'est vrai que le calendrier, il est beaucoup plus long qu'on espérait. Il y a un autre processus qui se déroule en parallèle, qui est lui mené par la Maison de l'alimentation et du territoire, qui répond aussi en fait à une motion qui a été déposée au Parlement cantonal sur la création d'un système alimentaire durable et territorialisé, SADT. Donc ça, c'est un processus qui se déroule aussi depuis plus d'une année en parallèle. Donc là, c'est une autre approche. C'est vraiment, ils ont identifié une quinzaine d'experts, expertes autant du milieu agricole que de la santé, que de la restauration, du secteur alimentaire. et ils ont travaillé ensemble sur différentes thématiques pour essayer de dégager des recommandations consensuelles. Donc ça, c'est un travail assez intéressant qu'on suit aussi également. Là, la suite, ça va au moins arriver cette année, c'est qu'ils vont encore approfondir, je crois qu'ils ont 7 ou 8 recommandations ou propositions qui vont être encore approfondies en élargissant le cercle de consultation, et elles seront présentées le 16 octobre lors de la Journée internationale de l'alimentation, lors d'assises publiques à Genève, ici même à la Maison des associations. Et du coup, on va participer à ça aussi, et c'est ce qui avance le plus vite. Là, en fait, bon, ça, j'en parlerai après des difficultés qu'on a, mais c'est où on se retrouve vraiment, c'est sur la gouvernance, c'est-à-dire que eux, ils vont proposer qu'il y ait un comité de l'alimentation au niveau cantonal. Donc, ce serait quelque chose de tripartite où il y aurait autant les institutions qui sont représentées que la société civile et que les professionnels, les acteurs privés du secteur. Donc, ça nous paraît très intéressant, et c'est aussi ça qu'on a recommandé dans nos commentaires sur la loi. Donc, on espère que là, il y a vraiment une convergence et qu'on va pouvoir avancer sur ce conseil de l'alimentation. En tout cas, de notre côté, société civile, on a déjà créé un conseil citoyen de l'alimentation qui regroupe un peu tous les acteurs qui ont participé à ce processus autour de la loi depuis 3 ans maintenant. Donc ça a été créé en septembre 2025, et puis du coup on est vraiment prêt à interagir avec les autres acteurs pour avancer sur cette gouvernance partagée.
Deux tiers des personnes surendettées mangent moins et moins bien en raison de leur situation financière à Genève. C'est le résultat d'un sondage que Caritas et la Fondation genevoise de désendettement ont mené auprès de leurs bénéficiaires en 2024. Comment on explique cette situation ? Est-ce que c'est particulier à Genève ?
Alors, c'est vrai qu'il faut quand même signaler que Genève a un indice de Gini très haut, c'est-à-dire que c'est un des cantons où les inégalités sont les plus fortes en Suisse. Donc on a effectivement toute l'image bling-bling de la Genève internationale et du luxe, etc. Mais le nombre de personnes qui sont en situation de précarité ou à la limite est également très très important. Il y a eu une étude qui a été menée enfin dans le contexte du Covid en 2024, ou qui a identifié qu'à Genève, en 2023, c'est 60 000 personnes qui ont eu recours à un dispositif d'aide alimentaire, c'est-à-dire 12% de la population, quoi. Donc c'est vraiment énorme. Donc c'est pas seulement les ménages surendettés, c'est vraiment tout le monde maintenant qui utilise l'alimentation comme variable d'ajustement des budgets. Et ce budget dédié à l'alimentation, il chute drastiquement. On est aussi un des plus bas d'Europe. C'était près de 50% de nos dépenses au début du XXe siècle. Et maintenant, en Suisse, je crois que c'est 11, mais à Genève, c'est 6,4. Quoi. C'est vraiment minime. Bon, après aussi, il y a des salaires très hauts. Le salaire moyen, il est à plus de 7000 francs à Genève. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Mais la vérité, c'est que ces statistiques aussi, c'est vraiment ce qu'on achète comme alimentation. Donc ça n'inclut pas tout ce qui est repas à l'extérieur, qui sont aussi très importants maintenant. Et c'est comme ça qu'on explique cette chute du budget, mais aussi avec c'est qui décide de ce qu'on mange. C'est tout un système agroalimentaire qui nous influence et qui décide un peu pour nous, quoi. Et les conséquences sont vraiment très fortes, quoi. Donc on parle de pas réussir à s'alimenter de manière suffisante, mais on parle aussi d'une épidémie des maladies chroniques liées à une mauvaise alimentation. Maintenant, c'est 43% de la population suisse qui est en situation de surpoids. Depuis quelques années, on a maintenant aussi des chiffres inquiétants, les enfants de moins de 5 ans dans des situations d'obésité. Donc la situation, elle est vraiment très grave, quoi. Et puis ça a des coûts énormes aussi sur les budgets publics, quoi.
Et c'est dans ce contexte que plusieurs organisations de la société civile lancent la Caisse Genevoise de l'Alimentation, la CALIM. À quoi sert cette caisse et comment est-ce qu'elle aide à réaliser le droit à l'alimentation ?
Alors, la CALIM, c'est le projet ou la proposition qu'on a faite justement dans tout ce processus de consultation autour de la loi, de dire en fait, il y a une autre façon d'envisager les choses. Ça nous vient pas mal de France, avec le mouvement pour une agriculture paysanne et citoyenne dont je fais également partie. On a étudié un livre de l'atelier paysan qui s'appelle « Reprendre la terre aux machines » et qui parlait aussi de cette socialisation de l'alimentation qui repose en fait sur trois piliers. C'est l'universalité, ça veut dire que c'est un système solidaire où tout le monde peut participer. On arrête de parler de il faut des telles conditions de revenus pour pouvoir accéder à tel dispositif. Là, c'est vraiment un dispositif qui se veut ouvert à toutes et tous. C'est un système qui est financé par les cotisations sociales. Donc ça, c'est vers quoi on tend. Pour l'instant, comme on est tous en stade d'expérimentation, c'est les cotisations volontaires en fait des participants. Et le choix démocratique, c'est-à-dire que là, c'est là où on arrive avec cette idée de fléchage, où en fait, c'est un comité citoyen, enfin, qui représente les mangeurs-mangeuses, qui va décider des lieux où on peut dépenser cette allocation, selon des critères justement économiques, sociaux, de gouvernance, enfin, tout ce qu'on veut, quoi. Donc c'est ça le concept. Donc on s'est pas mal inspiré justement des expérimentations qui ont cours en France et en Belgique depuis 2-3 ans. Et c'est ça qu'on a un peu affiné pour pouvoir expérimenter aussi à Genève. Donc on s'est lancé en 2024. On a fait un appel assez large pour que des citoyens, citoyennes, des habitants rejoignent un comité de l'alimentation, comité citoyen de l'alimentation, pour discuter ensemble de qu'est-ce qu'on... Enfin, on travaille aussi sur le lien de proximité, donc vraiment dans notre quartier, qu'est-ce qu'on trouve comme commerce qui vend de la nourriture, quelle est cette nourriture, combien elle coûte, comment elle est produite, qu'est-ce qui nous manque, où est-ce qu'on mange, comment on mange, toutes ces questions-là qui sont passionnantes, tout le monde en fait a plein de choses à dire et à partager. Et du coup, ça a bien marché. C'est vrai que j'étais assez surprise parce qu'on dit, encore un nouveau truc, un nouveau comité, encore un nouvel engagement. Et en fait, non, on a eu vraiment plein de personnes qui se sont intéressées au projet et qui nous ont rejoints. Donc, on a démarré avec une quarantaine de personnes en 2024. On a demandé un engagement sur l'année, donc de faire 7 séances d'une demi-journée avec nous où on allait s'informer, échanger sur nos pratiques, sur le système alimentaire, sur les enjeux de santé, d'environnement. Et on a fait ça toute l'année 2024. Et on est arrivé justement à ce concept de caisse, à comment ça allait fonctionner, combien on allait cotiser, est-ce qu'on allait demander le revenu des gens ou pas. Toutes ces questions qu'on a dû trancher, c'est quoi nos critères pour une alimentation adéquate, choisie. Donc ça a été un travail passionnant de démocratie alimentaire. On décide tout à 40, au consentement. Donc, c'est vraiment une expérience fascinante, quoi. Donc, concrètement, comment ça se passe, en fait donc, on a lancé la caisse officiellement en octobre 2025. Donc, tout le monde peut rejoindre la caisse. Autodétermine le montant de sa cotisation selon ses moyens. Donc là, on a développé des outils pour aider à se situer. C'est à la fois un tableau de situation assez subjectif sur comment on est par rapport à notre budget alimentaire et aussi une échelle plus classique de revenus pour se situer et qui flèche vers des niveaux de cotisation. Donc la personne choisit... pour elle ou pour son groupe, on peut aussi s'inscrire en groupe avec les personnes avec qui on partage son budget alimentaire, donc sa famille, sa coloc, etc. On s'inscrit et tous les adultes au-dessus de 14 ans, c'est ça le point de bascule chez nous, parce que les ados mangent beaucoup de ce qu'on nous a dit. Donc à partir de 14 ans, toutes les personnes qui participent à la caisse reçoivent l'équivalent de 150 francs par mois pour s'acheter de la nourriture dans des lieux que le comité citoyen a visités, étudiés, analysés et validés. Donc ça se passe comme ça. Et en fait, du coup, pour garder ce système fermé, en fait, si on veut, on a développé un crédit numérique qui s'appelle le radis. Et en fait, du coup, les personnes reçoivent des radis et peuvent dépenser ces radis que dans les lieux qu'on a choisis.
L'alimentation a été au cœur de plusieurs initiatives populaires ces dernières années, mais la plupart ont échoué dans les urnes. En septembre 2018, le peuple suisse refuse l'initiative populaire sur la souveraineté alimentaire, lancée par le syndicat agricole unitaire, ainsi que celle des jeunes verts vertes pour des aliments équitables. En février 2016, le peuple avait également rejeté l'initiative des jeunes socialistes visant à interdire la spéculation sur les matières premières et les denrées alimentaires. Et en 2017, les Suisses et Suissesses avaient accepté d'ajouter un article sur la sécurité alimentaire dans leur constitution. Lors de la dernière session parlementaire fédérale, en mars 2026, le Parlement a rejeté l'initiative sur l'alimentation. Les parlementaires ont jugé qu'il était irréaliste de vouloir faire passer le degré d'autosuffisance de la Suisse de 46% à 70%. Léa, le sujet de l'alimentation est-il pris au sérieux par les politiques au niveau fédéral en dehors de Genève ?
Oui, on peut se poser la question, effectivement. C'est vrai que très vite après la votation à Genève, on s'est dit « Ah, mais il faut qu'on fasse la même chose à Berne pour inscrire vraiment ce droit dans la Constitution fédérale. Comme ça, tous les cantons, après, pourront suivre. » Enfin, on était assez, assez encouragés par le plébiscite populaire qu'il y avait eu à Genève. Mais quand on a commencé à faire nos consultations à Berne, etc., on a vite été découragés. C'est sûr que ce n'est pas le même niveau d'appréhension des enjeux. On a encore apparemment de la peine à parler de politique de l'alimentation. On est toujours sur les politiques agricoles ou sur l'aide alimentaire ou sur l'aide sociale. Donc voilà, il y a un peu de peine à lier les enjeux et à vraiment travailler de manière cohérente. On est toujours dans ces politiques de silo au niveau fédéral, mais c'est vrai qu'à Genève, c'est quand même pas non plus encore si facile de travailler sur des politiques transversales qui adressent des enjeux divers. Donc on a quand même plus de marge de manœuvre au niveau cantonal et municipal. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des gros verrous au niveau fédéral qu'on a de la peine à adresser sur tout ce qui concerne le foncier. Enfin, voilà, il y a d'énormes blocages. On a un gros problème de transmission des fermes. Enfin, là, il y a de moins en moins de paysans-paysannes. Enfin, il y a 3 fermes par jour qui cessent leurs activités en Suisse. Donc ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent comme ça, mais c'est que souvent, la ferme est reconvertie en logement qu'on peut louer grassement, et puis les terres sont juste absorbées par les voisins, parce que notre système de subvention agricole rémunère à la surface. Donc plus on a une grande ferme, plus on a de subventions, plus on a de grosses machines, plus on a... Enfin voilà, il y a tout ce système de course infernale à la productivité, à l'économie d'échelle qui fait qu'on se retrouve... la Suisse, c'est encore un petit pays, mais si on regarde ce qui se passe en France, rien qu'en France, il y a un paysan tout seul sur son tracteur qui a des centaines d'hectares et qui est déprimé parce qu'en plus, il n'arrive même pas à en vivre. Donc le malaise paysan, il est énorme, il est intense, ici aussi en Suisse. Et on voit qu'on a de la peine à avancer sur ces sujets. Et on va être forcé et ça va être sans doute dramatique s'il n'y a pas une prise de conscience des autorités à tous les niveaux de cet enjeu-là, de garder quand même des savoir-faire, des pratiques transparentes qu'on peut contrôler parce que c'est à côté de chez nous. Et qu'on ne peut pas continuer sur ce système d'avantages comparés, à se dire que nous, on va faire que de la pharma et des bureaux, et puis que l'alimentation, elle sera produite dans d'autres pays. C'est absolument pas possible de rester dans ce système qui est basé sur l'exploitation.
Et consommer est aussi un acte politique ou militant. Se nourrir ici a aussi des implications ailleurs, notamment dans les pays qui exportent les matières premières. Et l'État doit également veiller à ce que toutes les personnes puissent réaliser leur droit à l'alimentation, ce qui implique le respect de conditions de production, de commerce équitables à l'étranger aussi. Or, dans de nombreuses régions du monde, des communautés locales doivent défendre leurs moyens de subsistance face à des multinationales, dont certaines ont leur siège en Suisse. On peut citer l'exemple du chocolatier Lindt, qui utilise des pesticides toxiques dans les plantations de cacao au Ghana, par exemple. Et en Suisse, l'initiative pour des multinationales responsables a été rejetée par la majorité des cantons en 2020. Au niveau international, l'ONU élabore depuis 11 ans un accord sur les entreprises transnationales et les droits humains. Jusqu'à présent, le Conseil fédéral a refusé de participer activement à l'élaboration de ce traité contraignant. Léa, pourquoi le gouvernement ne veut-il pas s'impliquer ? Est-ce que c'est parce que la Suisse, et notamment Genève, est un haut lieu de négoce des matières premières ?
Oui, y a plein de raisons à ça. Hein. Mais c'est vrai que c'est un peu la schizophrénie de la Suisse et de Genève en particulier, qui est le siège du Conseil des droits humains, et aussi un des pôles les plus importants du commerce de matières premières, qui repose sur la spoliation et l'exploitation. Donc on a vraiment ce problème d'incohérence entre les différentes politiques, entre les politiques commerciales et les politiques d'aide au développement, par exemple, qui vont soutenir les petits paysans pour leur subsistance, qui vont investir dans l'agroécologie, et puis à côté, des investissements massifs dans des secteurs extrêmement nocifs pour l'alimentation et l'agriculture. Donc, comme partout, hein, la politique menée est le résultat de rapports de force. Vu que notre politique fiscale attire des acteurs économiques très puissants et qui savent très bien défendre leurs intérêts, à quoi on se heurte. Quoi. La Suisse, ça reste un pays quand même très conservateur, qui réagit plutôt qu'il innove ou qu'il essaye de nouvelles choses alors qu'il en aurait les moyens, surtout dans le domaine social. Et c'est vrai qu'il y a assez peu de considération pour le travail des droits humains, pour cette approche. La Suisse ne reconnaît pas les droits humains comme des droits contraignants, mais plutôt comme des buts sociaux vers lesquels on devrait tendre. Donc il y a un peu de mépris par rapport à ces droits fondamentaux. Et du coup, ça découle des problèmes de justiciabilité, où on a vraiment de la peine à faire reconnaître ses droits, à obtenir des réparations ou des compensations en cas de violation. Et il y a une forme d'aveuglement, comme si tout allait bien en Suisse, alors que si tout le monde consommait comme nous, il nous faudrait trois planètes. Et que qui paye ce coût de cette surconsommation ? C'est les populations marginalisées loin de chez nous, qu'on ne voit pas au quotidien et qu'on peut du coup rester dans cet aveuglement. Mais c'est vrai que quand on voit ce qu'ont fait les aînés pour le climat qui sont sortis de la Suisse pour aller demander ce qu'en pensait la Cour européenne des droits de l'homme, c'était sans appel. Enfin, on ne fait pas ce qu'il faut avec les moyens qu'on a en Suisse pour travailler à la transition écologique et sociale.
L'État a également l'obligation de s'assurer que les particuliers ne violent pas le droit à l'alimentation, en prenant par exemple des mesures pour lutter contre la pollution de l'environnement qui menace la production alimentaire. L'agro-industrie a de graves conséquences sur le climat. Au-delà du gaspillage alimentaire, l'agriculture intensive pollue les sols, l'eau et l'air. Mais il faut aussi acheminer, stocker et détruire ces aliments, ce qui a un coût environnemental. En Suisse, on est malheureusement obligé d'importer la grande majorité de ce que nous consommons. Est-ce que la production locale est vraiment plus écologique que l'importation ?
Tout dépend de ce qu'on produit et comment, en fait, et du territoire qu'on a. Donc effectivement, en Suisse, on est autonome qu'à 50% par rapport à l'alimentation de la population. C'est la moitié qu'on importe. Et à Genève, les chiffres sont encore plus marquants. C'est-à-dire qu'on est autonome théoriquement à 15% de ce qu'on consomme. Mais en fait, on en exporte la moitié de ce qu'on produit à Genève dans le reste de la Suisse, principalement. C'est-à-dire qu'on s'est spécialisé à Genève dans la culture hors sol des tomates, des concombres, des aubergines, sous serre chauffée. Et c'est vraiment la spécialité du canton. On est canton qui produit le plus de tomates en Suisse, à Genève. Donc c'est comme ça que notre système alimentaire fonctionne aujourd'hui. Il est organisé par et pour l'industrie agroalimentaire, où il faut faire des économies d'échelle, produire aux coûts les plus bas possibles, fournir des alimentations au coût le plus bas possible. Et puis en fait, les coûts en fait sont énormes, les coûts cachés sont énormes, tant sur l'environnement avec une serre chauffée, c'est plus d'effet de gaz à effet de serre qu'une tomate en pleine terre de saison, ça c'est évident. Et en se spécialisant à outrance dans la production, ça fait qu'on doit, pour avoir une diversité d'aliments, importer le reste. Donc tous ces trucs de transport sont énormes. Et puis, ça donne un modèle qui n'est pas vivable, quoi. Des fermes toujours plus grandes, avec plus de machines, de monocultures. C'est extrêmement vulnérable au changement climatique. Alors que si on serait sur des fermes plus diversifiées, qui fonctionnent avec un cycle fermé, où elles peuvent éviter les déchets, garantir un approvisionnement varié, même en bio, parce que si une culture marche moins bien, il y en a une autre qui marche mieux. Enfin, tout ça, on le sait, c'est complètement minorisé. Et c'est vrai que à Genève, qui a fait des investissements, notamment publics massifs, dans cette agriculture industrielle, de parler de bio, c'est très compliqué, quoi. Donc il y a des... Il y a des fronts qui sont assez durs, et puis on espère pouvoir les dépasser et pouvoir vraiment travailler ensemble vers un horizon commun, désirable pour tout le monde.
Le rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation de l'ONU a dénoncé en avril 2025 un système financier international qui entrave délibérément la capacité des gouvernements de remplir leurs obligations en matière de droit à l'alimentation. Les dépenses annuelles de publicité et de communication du secteur agroalimentaire s'élèvent en France, par exemple, à 5 milliards d'euros, soit 1000 fois plus que le budget de communication du Programme national sur la nutrition et la santé, ce qui oriente fortement les choix des consommatrices et consommateurs, en particulier vers des produits trop gras, sucrés ou salés. Et en Suisse, Greenpeace a calculé que la publicité dans le secteur alimentaire, notamment par la COP et la Migros, en particulier pour les produits d'origine animale, exerçait une pression très importante sur l'environnement. Léa, y a-t-il des mécanismes de régulation en Suisse pour cadrer et réguler ce type d'action des acteurs privés ?
C'est vrai que souvent, quand on parle avec les autorités, on a l'impression que c'est complètement impossible, alors que ça fait clairement partie de leurs obligations des droits humains, de protéger les droits humains, c'est-à-dire d'empêcher que des tiers portent atteinte à ces droits. Et effectivement, dans ce cadre-là des droits humains, les tiers, c'est souvent des acteurs privés qui ont leurs intérêts à cœur, mais pas du tout l'intérêt général. Et tous les accords commerciaux, la liberté économique semblent être placés en-dessus de tout et inattaquables, alors que c'est des lois et des accords comme les autres qu'on pourrait rediscuter, redéfinir. Enfin, il est vraiment grand temps de réorienter les politiques agricole et alimentaire si on veut continuer à vivre sur cette planète, parce que le système alimentaire actuel, il est ultra dépendant aux énergies fossiles, extrêmement nocif pour la biodiversité, il dégrade les sols qui sont de moins en moins fertiles, pollue l'eau, l'air, et surtout repose sur l'exploitation des personnes. En Suisse, oui, l'alimentation coûte cher, mais parce qu'on a un cadre sur le droit du travail et puis qu'on estime que... ils sont exclus, par exemple, à Genève, exclus du salaire minimum, les paysans paysannes. Donc ils ont déjà des conditions de rémunération extrêmement basses, des conditions de travail très dures, avec un nombre d'heures par semaine bien au-delà de la plupart des métiers. Et c'est encore ça où on dit que c'est trop cher, quoi. Alors que, ben voilà, ce qu'on trouve dans les supermarchés en Suisse, c'est des aliments ou des fruits, des légumes qui sont récoltés par des personnes qui sont en situation de quasi-esclavage dans le sud de l'Europe. Il faut le savoir, il faut le dire, il faut ouvrir les yeux et puis être conscient de ça, quoi. Cette course au bas prix, eh ben elle détruit l'environnement et la santé humaine et fait disparaître nos paysans et paysannes. On perd des savoir-faire essentiels pour notre résilience à moyen long terme, quoi. Donc il est vraiment grand temps de réguler les acteurs et de promouvoir des politiques publiques qui garantissent à tous et toutes un droit à l'alimentation, à une alimentation durable et de qualité.
Et l'alimentation est aussi une question démocratique. Pour la Calim, les citoyennes et citoyens ont pourtant encore trop peu de pouvoir sur ce qui se décide en matière d'alimentation. Les choix qui structurent notre système sont souvent faits sans celles et ceux qui mangent et produisent notre alimentation, comme tu le disais. Notre voisin, la France, s'est doté d'un Conseil national de l'alimentation. Ce Parlement de l'alimentation conduit depuis 40 ans un processus de concertation qui intègre les préoccupations des filières concernées et de la société civile. Au niveau de l'Union européenne, l'initiative citoyenne pour le droit à l'alimentation propose aux citoyennes et aux citoyens de l'UE un moyen de peser directement dans les décisions européennes. Léa, comment juges-tu toutes ces initiatives ? Est-ce qu'elles sont positives ? Est-ce qu'elles ne vont pas encore assez loin ?
Il faut quand même saluer ce qui doit être salué. Moi, je pense que c'est quand même très positif. C'est vrai que quand on a lancé toute cette discussion sur le droit à l'alimentation à Genève, on nous demandait « mais c'est quoi le droit à l'alimentation ?» Il faut une définition, on ne comprend pas, ça veut dire quoi, adéquate. Enfin voilà, il y avait quand même beaucoup de difficultés, mais on s'est accroché à dire non, en fait, on garde la définition du droit à l'alimentation, du droit international. Ça figure ainsi dans la Constitution genevoise. Et on explique ce que ça veut dire de réfléchir selon ce spectre des droits humains. Et moi, j'ai quand même l'impression... j'avais été quand même aussi échaudée, hein, quand on fait carrière dans les droits humains, c'est quand même pas souvent qu'on peut se réjouir. Mais là, j'ai vraiment pu voir, en fait, que ça changeait la perception des gens. De parler de droit, ça sort l'alimentation de c'est un bien de consommation comme les autres qui s'achète et qui s'échange. C'est plus que ça, c'est un droit fondamental, constitutif de qui on est et de comment on interagit les uns avec les autres. Et du coup, j'ai senti que les gens disaient « Ok, en fait, j'ai le droit de dire ce que j'en pense, j'ai le droit de participer à cette discussion, ça me concerne, tout le monde a toujours quelque chose à dire sur l'alimentation, c'est aussi très lié à nos histoires personnelles. » Donc moi, je trouve super que ces initiatives permettent de mettre l'alimentation à l'agenda politique, à tous les niveaux. Ça fait des sujets de débat public, on en parle et les gens s'en saisissent. Donc je pense que ça vaut vraiment la peine. C'est vrai que ce qu'on fait à la Calim, c'est hyper, hyper stimulant, hyper encourageant. Ça crée beaucoup d'engouement. Là, on fait encore des soirées de présentation tous les mois et puis il y a à chaque fois une cinquantaine de personnes qui trouvent ça trop génial. Enfin, c'est aussi un moyen très concret de rentrer en action, d'être solidaire, de participer et de se dire les droits humains, c'est pas perché là-haut, ça peut vraiment se concrétiser sur le terrain, on peut y participer et ça, je trouve que ça fait bien la différence, quoi.
Merci beaucoup, Léa. Article 7 est un projet de humanrights.ch produit par podcastlab.ch, modéré en allemand par mon collègue Christophe Keller et en français par moi, Jeanne Durafour. Article 7, nous vous parlons des droits humains en Suisse, est publié tous les derniers vendredis du mois sur tous les canaux, le site de humanrights.ch et sur podcastlab.ch. On se réjouit de vous retrouver.